Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la vie du citoyen ici dans ce beau festival qui est le Jardin d'hiver, n'est-ce pas? Cette 12e journée magnifique que nous sommes en train de vivre ce samedi et aujourd'hui pour cette rencontre avec ce que nous relie et avec vous. Bonsoir, Antoine Filias.
Bonsoir.
Bonsoir, Claude Batteny.
Bonsoir.
Nous allons passer une heure ensemble pour parler de vos livres qui sont sortis donc en 2023. Alors pour vous, Claude, Desperado sur le rivage au mois de mai, aux éditions Métallier.
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 On avait répété pour toi.
Oui, c'est vrai, on avait répété. Je l'ai demandé tout à l'heure, comment on dit exactement pour que je ne m'arrête pas. Eh bien voilà, c'est fait. Et puis vous, Antoine, pour votre livre Plexiglas, sorti au mois d'août. Et la maison d'édition, bien sûr, Asphalt, exactement. Ben voilà, donc vos livres, on peut dire, il y a quelque chose qui vous relie déjà, c'est l'écriture, n'est-ce pas, autant qu'auteurs, tous les deux. Mais il y a aussi dans les livres des choses qui relient les personnages, les géographies, on va en parler. Mais si je pose cette phrase comme ça, ce que nous relie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de prime abord?
Bah, pour ma part, en fait, c'était plus. Alors, c'était moins le fait qu'on soit relié par du fait qu'on fait on parle un peu de lieu bien spécifique. Et enfin, dans mon esprit, c'était plutôt dans nos livres. En fait, il y a les. Moi, malgré le fait que dans mon livre, le personnage principal, qui est le narrateur, soit détesté par la moitié de la population, malgré ce fait-là, il est extrêmement. Il est hyper sociable, donc il connaît tout le monde. Dans le périple qui ponctue un peu le livre, en fait, il connaît tous les personnages, donc il est lié en fait de façon, il est socialement très 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 lié avec autrui. Donc c'était ça, c'est comme ça que j'entendais le titre de cette intervention.
Oui. Ouais, c'est ça. C'est moi, en lisant le livre de Claude, j'ai compris ce qui nous liait, dans le décor. Ces zones périurbaines qui sont peu représentées en littérature, qui sont peu des décors de littérature, et cette galerie de personnages, on a tous les deux des galeries de personnages qui évoluent là-dedans, c'est ça qui nous lie. Après, je sais pas, t'es droitier, gaucher?
Droitier.
Gaucher, bon, voilà.
Et voilà.
Non, bah.
Et puis,
on s'est mal placé là.
Autre chose qui nous relie là, pour le coup tous, c'est que nous vivons à Rennes.
Ouais,
on habite à Rennes,
On est les locaux de l'étape.
Oui.
Les seuls, je crois, du festival.
Donc, nous sommes présents à l'instant T, avec le même public, dans le même lieu. Donc tout ça, ça nous relie pas mal aussi. Donc si vous me permettez, j'ai préparé une petite lecture de mes impressions, enfin en tout cas un pitch sur les livres, pour qu'on puisse rentrer dans cette conversation. Eh bien, je commence par le Desperado sur Rivage avec vous, Claude. Nous suivons donc Jeff dans une station balnéaire en Bretagne. Il est musicien, joue de l'accordéon et durant ses déambulations, allant de rendez-vous à parachutage dans des lieux dont il n'avait pas envie d'y aller, il nous raconte de manière rocambolesque, précise, comme une personne qui vous dévoile son histoire avec détail, digression et panache, sa relation aux personnes de ce lieu. Jeff, qui est considéré par tous ou presque comme étant un connard, alors une posture qu'il assume et nous sommes perplexes à le croire, ce qui donne un sentiment assez étonnant, on ne sait pas très bien si on a envie de l'aimer ou de le traiter de connard également. Mais à un moment donné, Jeff nous apprend davantage sur un événement qui a marqué fortement et durablement l'ensemble des personnes qu'il va côtoyer. Ce livre bouleversant, qui nous balade dans une géographie, mais aussi dans un panel non exhaustif de sentiments. En tout cas, pour ma part, Jeff est un personnage atypique et si le lecteur porte un jugement trop actif, il pourrait, au bout du livre, se faire surprendre. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
C'est très beau ce que vous avez dit. Franchement, là, c'est...
Vous travaillez, quoi.
Qu'est-ce que je peux ajouter à ça? Ben, en fait, Jeff, il est... c'est le narrateur principal, donc il parle à la première personne. Et en fait, quand il évolue dans le livre, il s'amuse avec la langue. Donc il s'amuse beaucoup avec le langage et il s'adresse également beaucoup au lecteur. Donc ça crée un sentiment un peu d'empathie pour ce personnage. Et donc, il évolue. En fait, on va comprendre le drame qui a émaillé sa vie, un drame qui s'est déroulé 2 ans auparavant, et que, bon, évidemment, je ne vais pas divulgâcher, mais qui explique un peu sa façon d'être. C'est-à-dire qu'en fait, quand le bouquin commence, il est sur un bateau avec sa compagne, et sa compagne reçoit des amants. Et lui, il accepte ça avec une complaisance assez extraordinaire. C'est-à-dire qu'en fait, il est musicien, c'est un joueur d'accordéon.
Donc, alors, tous les musiciens joueurs d'accordéon ne sont pas forcément...
Exactement. Et donc, pendant qu'elle fait l'amour avec ses amants, ben, lui joue de l'accordéon.
Voilà, c'est ça.
Donc, c'est un peu le principe de départ du bouquin. Et c'était un petit texte que j'avais écrit à une époque. Ça correspondait aux 3 premières pages, à peu près les 3-4 premières pages. Et je trouvais les deux personnages... Donc lui et sa compagne tellement sympathiques que je me suis dit je ne peux pas rester avec ce petit texte, surtout qu'en fait ce texte n'était pas du tout une nouvelle, en sens qu'il n'y avait pas de conclusion. Donc j'étais confronté à deux difficultés. La première, c'est que il fallait que j'explique pourquoi Jeff est aussi complaisant. Et en fait, personnellement, je ne le savais pas moi, au départ. J'étais parti sur ce postulat, mais je ne savais pas du tout pourquoi il avait cette complaisance. Donc il fallait que j'imagine. Et j'avais une autre difficulté, c'est de faire sortir Jeff de son bateau. Il est sur un bateau dans les 3 premières pages du livre. Et donc ce texte que j'avais écrit, je n'arrivais pas à le faire sortir de son bateau. C'était vraiment une grande difficulté. Je me suis dit, est-ce qu'il va aller vers un bar? Est-ce qu'il va aller vers une boîte de nuit? Est-ce qu'il va aller... Et finalement, alors, ce qui s'est passé, c'est assez étonnant, c'est que je suis allé vers le lieu qui correspond le moins à ma zone de confort. Alors quand je dis ma zone de confort, c'est parce que je l'amène vers le stade municipal. Alors je ne suis pas un grand sportif. Donc c'était un peu l'idée, et le fait de l'amener vers ce stade municipal, et en fait ça a débloqué quelque chose qui fait qu'ensuite j'ai eu moins de difficultés. Enfin, ça a commencé.
Ensuite, il a pas mal baladé.
Voilà. Et en fait, voilà, il y a un moment où on sent qu'on est bordé par l'écriture, c'est-à-dire qu'en fait on avance, on connaît même pas la fin. On sait qu'il y a la fin, on sait qu'on va y arriver, mais on ne sait pas si ça va durer 50 pages, si ça va durer 100 pages, mais on sait qu'on va y arriver. C'est assez étonnant comme phénomène.
Oui, c'est assez étonnant. On va continuer à creuser d'ailleurs avec vous dans quelques instants. Maintenant, passons à Plexiglas. Donc, il retrace l'année et les rencontres d'Eliott, jeune homme un peu paumé, bientôt trentenaire, qui quitte Rennes pour trouver du travail dans sa ville natale, à Cholet, en Maine-et-Loire. L'histoire se passe durant une année ponctuée d'événements, et pas n'importe quelle année d'ailleurs, puisqu'ici on est en 2020. C'est l'année de la Covid et des confinements. Dans une zone commerciale en périphérie du centre, Eliott rencontre Lulu, qui travaille comme caissière à Carrefour et compte bientôt partir en retraite. Partage des bribes de conversation au Balto, qui est un bar de la galerie commerciale, rend visite à son grand-père installé en EHPAD, se connecte à un... à une appli, pardon, j'ai eu un problème ici. Se connecte à une appli de rencontre à l'occasion. J'ai écrit un pli, mais je crois que c'est l'ordinateur qui m'a fait faux bond. Alors, plexiglas, masque, gel hydroalcoolique, le livre raconte les rencontres et le quotidien de personnes qui, du jour au lendemain, sont devenues des travailleurs essentiels. Eliott cherche à prendre sa vie en main tout en procrastinant pas mal. Il partage aussi des doux moments avec Raph, sa sœur jumelle.
Oui, c'est bien ça. Oui. Merci. Ouais. Je sais pas.
Non,
que
là,
dire
t'as écouté.
Oui, là, c'est une introduction. En fait,
c'est bien le résumé du livre, en effet.
Ouais, c'est vrai. C'est ce qu'il raconte, mais il raconte bien plus que ça, bien sûr. Il raconte cette année de Covid. Il raconte un maillage, un tissu des personnes qui sont vraiment à travailler dans ce centre commercial, qui se rencontrent, ce bar, le Balto, qui est aussi un lieu de vie dans lequel les gens y vont converser de manière plus ou moins profonde, on va dire, sur des sujets de société qui le regardent. Le livre parle beaucoup aussi de militantisme, parce que, à savoir qu'au début du livre, effectivement, Eliott quitte Rennes pour aller à Cholet. Il y a un problème à la jambe. Il a participé dans une manifestation. Il s'est fait agresser.
Oui, il s'est fait péter le tibia par des CRS pendant les manifs contre la réforme des retraites en décembre 2019. Parce que c'est, on se souvient de celle de l'an dernier, mais ça avait commencé fin 2019. fin 2019, on était aussi, il y avait encore les Gilets jaunes à l'époque. Souvenez-vous. Et Eliott, ouais, je le renvoie à Cholet. Et ça parle de militantisme. Mais ce qui m'intéressait, c'est de parler de militantisme dans une ville où il y a peu de militantisme. Contrairement à Rennes, Cholet, c'est il y a des Choletais dans la salle ou des Choletais ? Ah. Vendée. Ah voilà. Bah, on va en parler de la Vendée. Il y a de l'industrie, oui, mais alors, l'industrie militantiste, bref. Mais le Cholet, c'est une terre où il y a peu de lutte. Moi, j'ai évidemment, il y a des syndicats, évidemment, il y a des groupes de gauche radicale, mais ils sont très petits. Et même pour une ville de cette taille, et c'est une ville où on est plus contre-révolutionnaire que révolutionnaire, historiquement. Et d'ailleurs, si vous allez au musée à Cholet, c'est les guerres de Vendée, principalement. Et moi, ça m'intéressait du coup de voir. Qu'est-ce qu'un gars qui est parti, qui est né là-bas, mais qui est parti à Rennes et qui s'est radicalisé à Rennes, va faire en revenant à Cholet? Et qu'est-ce aussi mon deuxième personnage principal, Lulu, qui est une caissière qui se retrouve, qui veut rentrer en lutte à 3 ans de la retraite, qui découvre ça, qui va sur Internet pour essayer de comprendre du Frédéric Lordon, qui va qu'on imagine lire Bégodeau également. Et ça m'intéressait de voir. Comment on rentre en lutte quand il n'y a pas de manif, il n'y a rien, et en plus il y a le Covid, alors ça aide pas, quoi. Et voilà. Et c'était aussi un portrait de, c'est aussi ce qui arrivait à beaucoup de Gilets jaunes. Justement, je disais qu'on manifestait peu à Cholet. Il s'est passé quand même en 2018-2019 des choses qui étaient inédites à Cholet, de militants qui prennent les ronds-points, etc. Et si vous voulez en savoir plus sur le militantisme à Cholet, j'ai cité Bégodeau, je cite aussi Davodeau, parce que Davodeau a fait une excellente BD sur les, notamment 68 dans les Mauges, et puis aussi les mouvements contre le projet d'autoroute dans son excellente BD qui s'appelle Les Mauvais. Il y a Les Mauvais Gens, que j'adore, mais j'ai oublié le nom de l'autre. Mais bref, Davodeau est un grand sociologue des Mauges, en tout cas. Voilà.
Et justement, j'ai l'impression, quand je t'ai lu, ça m'a fait penser à Davodeau. Et d'ailleurs, Lulu, je pensais à Lulu Femme Nue.
Bien sûr, ouais.
Donc je me dis, ça, ouais, c'est vraiment l'influence.
Ouais, carrément. Lulu, j'ai piqué. Je peux le dire. Je sais pas si là, mais je peux le dire. Non, et puis moi, j'aime beaucoup son travail très documenté, et puis son.
Ouais, c'est un peu plus
sur la région.
C'est un peu plus rural, mais. Ouais. Mais néanmoins, c'est un peu le même état d'esprit, ouais. Effectivement. Ouais.
Davodeau, Bégodeau, c'est des gens des Mauges aussi. Hein. D'ailleurs, ça s'entend. Moi, Filia, ça n'a rien à voir, mais ça s'entend. Et en effet, c'est ça qui m'intéressait dans cette terre et dans ce décor, quoi.
La façon comme vous écrivez tous les deux, alors le livre, évidemment, ils sont radicalement différents, mais tout de même, vous avez des longs passages de bavardage. Alors, de bavardage, je ne sais pas si le mot il est vraiment bien choisi, mais dans ton livre, Claude, c'est vraiment, on est dans la tête de Jeff, il est en train de nous raconter quelque chose, hein. Et dans le tien, tu es en train de décrire des choses très importantes qui font partie de l'environnement de ces personnages. Mais alors, c'est sans virgule, quoi. Ça va, c'est vraiment quelque chose d'une énorme liberté, on va dire, d'expression qui part de l'un et de l'autre dans vos livres respectifs. Comment vous aviez eu envie, en fait, de travailler sur cette matière de cette manière-là? C'était une évidence pour vous que d'écrire, c'est d'écrire aussi de cette manière?
Alors pour ma part, en fait, c'est, je pense que c'est le fait de rentrer dans le personnage. C'est assez étonnant, mais une fois que je suis en immersion dans le personnage, en fait, je le suis un petit peu là, je dirais que je me laisse guider, ce qui est un peu assez étonnant, parce qu'on considère toujours que le personnage, évidemment, c'est quelque chose qui émane de soi, donc il est complètement absurde de dire je vais suivre un personnage, vu que c'est ce personnage qui est une projection finalement, mais c'est ça vient un peu de son inconscient. Mais néanmoins, une fois que je suis bien dans le personnage, c'est vrai que j'avance sans trop de difficultés. Par exemple, pour Desperado sur le rivage, c'est vrai que j'étais dans le bouquin. Après, je suis parti en vacances pendant 3 semaines. Donc là, je ne touche pas du tout à l'écriture. Je reviens, je me mets devant mon ordinateur. Et tout de suite, c'est comme si j'avais jamais quitté le personnage. C'est-à-dire que je reprends le fil de l'écriture et... Ça coule de source, c'est-à-dire qu'il y a une évidence liée à... Comme s'il y a eu un travail en amont qui était d'abord le fait de bien sentir un personnage qui fait qu'après on n'a pas de difficulté. Alors je dis mon personnage a énormément d'humour, d'ironie, de recul sur lui-même, mais en fait c'est pas quelque chose que je cherche personnellement, c'est quand je suis dans le personnage, c'est lui qui me... Enfin c'est lui, c'est toujours pas... Voilà, c'est... c'est absurde de dire ça, mais c'est effectivement comme ça que c'est ressenti de façon phénoménologique.
Oui, voilà. Phénoménologique, bien sûr.
Subjective. Ouais.
Mais encore après, il y a cette restitution sur le papier, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'on y va, quoi. On y va, on raconte. Et nous, le lecteur, on n'a plus qu'à y aller. On ne peut plus se lâcher, quoi. On se dit, waouh, quand est-ce qu'on va pouvoir respirer? Vous êtes vraiment dans quelque chose qui... Alors, ce n'est pas irrespirable, loin de là. Hein. C'est vraiment très sensible. Mais il y a peu de pauses par moment dans le livre.
Oui. Ah oui, il y a peu de pauses, mais effectivement, parce qu'il a toujours quelque chose à dire.
Ça mouline, quoi, enfin, dans la tête de Jeff.
Parce que, effectivement, je parlais d'un drame. Donc, oui. C'est vrai qu'au début, on ne sait pas trop où il va. Parce qu'en fait, je prends assez large, en fait, au niveau des... Mais en fait, un livre, c'est toujours... On part toujours très, très large, en général. Donc, c'est comme ça, c'est là où on s'exprime le plus des choses un peu plus inconscientes sur soi-même. Et après, on est ramené à tout. Alors, avec le micro, c'est difficile à le faire, mais on est ramené à tout ramener.
En entonnoir.
Voilà, en entonnoir. Donc, ça c'est des. Alors, c'est vrai que ça, c'est les romans. Alors, c'est peut-être 95% des romans qui sont des romans fermés. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont vers une conclusion. Il y a des romans qui sont plus ouverts. Donc, effectivement, ça finit de façon extrêmement ouverte. Pour Antoine, du fait que c'est une chronique, c'est vrai que ça reste relativement ouvert parce que qui dit chronique dit en fait il parle d'un microcosme.
Voilà, la différence c'est que autant Claude très ouvert, y compris dans la géographie, il se balade dans un lieu, une station balnéaire, on ne sait pas exactement où elle est, hein. D'ailleurs, peu importe, on sait juste qu'elle est en Bretagne. Mais là, pour le coup, on est vraiment à Cholet avec des précisions de lieux qui sont très importantes pour toi.
Ouais. On parlait de style, de narrateur notamment, et moi j'ai besoin de contraintes. Enfin, je m'impose des contraintes, quitte à après en sortir, mais notamment la contrainte que je m'imposais, ça devait être encore plus un huis clos à la base. Ça devait se passer uniquement dans le bar de la galerie commerciale, et finalement j'ai étendu à toute la galerie commerciale, à tout le carrefour, et finalement j'ai envie d'en sortir et au parking. Mais à la base, je voulais que ça se passe une année aussi, voilà, que ça se passe de décembre à décembre précisément. Et donc ça me met des contraintes. Et après, à l'intérieur de ça, je peux bricoler. Une autre contrainte que je me suis mis pour celui-ci, à l'inverse de Claude, c'est que j'étais parti au départ sur un narrateur à la première personne. Il aurait dû être Elliot, voire Elliot et Lulu. Et puis en fait, je me suis dit non, faut que tu bosses un peu, faut que tu t'essayes un truc que tu avais déjà fait avant, mais que tu as toujours du mal à faire, c'est d'avoir un narrateur à la troisième personne. Hein. Mmh. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait les cours de français, narrateur omniscient, je crois, c'est ça. On dit, je sais plus. Voilà.
Ça pêche dans la salle.
Ouais, je sais pas.
Oui. Ça cherche.
Enfin, en tout cas, voilà. Et je voulais bosser là-dessus. C'était mon objectif numéro un dans le bouquin. Plus que le fond, c'était vraiment la forme. C'était bosser un narrateur omniscient. Là où je mets à l'heure, c'est que les deux premières pages, elles sont du point de vue d'Eliot. C'est peut-être les deux premières pages qui ressemblent le plus à Desperado, justement. Je reviens au thème, ce qui nous lie, mais c'est vu un peu. C'est pareil, c'est un narrateur qui... c'est Eliot qui se retrouve dans un covoiturage et qui doit, en gros, faire sa biographie très vite, comme on fait parfois dans les covoiturages. Et du coup, là, je charge vraiment. Et
tu fais... En fait, il y a un moment, c'est vrai que j'étais parti sur une seule phrase, en fait.
Et c'est une seule phrase.
Ouais, c'est une seule phrase qui est extrêmement longue. Donc, c'est vrai que c'est assez jouissif, parce que...
Et je vais vous la lire, d'ailleurs.
Ouais, c'est le moment.
La transition, on m'a dit qu'il fallait que je lise un extrait.
Exactement. Et comme on ne va pas cumuler un extrait, puis un extrait, on va faire un incroyable. Peu plus tard. Ça y est.
Quelle transition.
Je n'ai pas besoin de trop vous mettre le contexte, parce que c'est le...
C'est les premières pages, c'est au départ.
C'est le début du bouquin. Voilà, c'est le tout début. Je vais essayer de lire. Je vais arriver à lire ça en. Allez, 2 minutes, on lance le chrono.
Allez.
Alors, Elliot vient de revenir à Cholet. Si je vous fais un peu de contexte, il y a deux paragraphes avant. Elliot, le personnage principal, revient à Cholet le soir du 31 décembre. Et là, il va nous raconter son covoit pour revenir de faire Rennes-Cholet. Voilà. 2 heures plus tôt, alors qu'il quittait Rennes, la conductrice du covoiturage lui a demandé pourquoi il porte des béquilles. Parce que le 5 décembre, je me suis retrouvé embarqué par une bande de casseurs pendant la manif contre la réforme des retraites et un flic m'a pété le tibia à coups de matraque sous prétexte que je défonçais la vitrine d'une agence immobilière, boulevard de la Liberté. À peine mon plâtre séché qu'on m'a accusé de vouloir détruire la République, j'ai dit « Monsieur le juge, je voulais juste détruire une vitrine ». J'ai quand même plaidé coupable pour ébriété sur la voie publique et destruction de matériel. Amende de 1500 euros, apothéose d'une décennie d'échecs qui a commencé le jour où j'ai séché les partiels parce qu'il neigeait et que j'avais oublié mon pull chez une copine. Enfin, plus la peine de mentir, chez un copain, Lucas, mon premier copain. Parti en Erasmus le semestre suivant, jamais revu, jamais rattrapé mes examens, abandonné la fac de sociaux pour faire le tour d'Europe en stop à une époque où le covoit n'existait pas. C'était la vraie aventure, le pouce levé, tout l'argent du périple, claqué direct dans un pub brestois où j'ai appris à boire et me faire des amis, l'école de la vie, comme on dit. Et de retour à Rennes, je me suis inscrit au bistrot du quartier où j'ai côtoyé les plus grands esprits de ma génération. Mais comme il fallait payer la note et le loyer de mon 20 mètres carrés, je me suis aussi inscrit dans une agence d'intérim. Et là, je ne sais pas si j'ai le temps de tout vous raconter parce qu'on est déjà au niveau de Loiret. On m'a refilé les missions les plus débiles, genre répondre au téléphone du service après-vente d'un fabricant de téléphone. Faire l'inventaire d'un magasin de bricolage où j'ai dû compter les clous un par un et, plus drôle, faire le ménage dans les bureaux de mon agence d'intérim. Pas de quoi bouffer correctement, mais je pouvais enfin postuler à l'ANPE et faire tous les trucs que j'avais pas eu le temps de faire depuis mon arrivée, rater mon permis, essayer de deviner le code Wi-Fi de mes voisins, regarder les Sopranos depuis le temps qu'on m'en parlait, explorer le milieu gay, tomber amoureux d'un hétéro. Fais pas gaffe à la déviation, continue sur la départementale direction Beaupro. Et donc, à la fin de mes allocs, comme je ne savais toujours pas conduire et que l'agence d'intérim me proposait que des postes de livreur, j'ai fait la plongée sur un paquebot de croisière Roscoff-Cork. Je vous raconte pas les cuites en Irlande où j'ai rencontré Martin, un barman avec qui je suis resté pendant plus d'un an avant de revenir sur Terre. La NPE s'appelait désormais Pôle emploi. Pas vu la différence, juste pris la thune, enfin pu regarder Mad Men depuis le temps qu'on m'en parlait, enfin pu acheter mon premier smartphone. La première appli que j'ai installée, c'était pour rencontrer des mecs près de chez vous. Et après plusieurs plans cul, j'ai rencontré Guillaume. Et là, pour le coup, c'est une longue histoire, mais nous voilà déjà au Super U de Saint-Macaire. Alors je résume, 2017, 2018, 2019, galère pour retrouver du taf, peine de cœur à cause de Guillaume, impôts locaux qui augmentent à cause de l'arrivée en masse des Parisiens, interdiction bancaire à cause de mauvais investissements, bref, jamais ma faute, à part peut-être la vitrine de l'agence que je voulais vraiment défoncer. Et en quittant Rennes tout à l'heure, j'ai versé une larme. Adieu, capitale des assoiffés, insomniaques et musiciens. Adieu, cité d'adoption qui m'a offert la pire des éducations. Avant de me renvoyer à la case départ et que tête basse, je retourne à Cholet, la case départ. Vous pouvez me laisser sur le parking de Carrefour. Merci et bonne année. Voilà. Et donc oui, ça c'est une phrase.
Ça c'est une performance, je vous dis. Magnifique. On a l'impression qu'elle n'a pas respiré. C'est un peu de ça que je voulais dire tout à l'heure. Hein. Ah oui, il connaît bien la route, clairement.
J'ai fait un paquet de fois ce covoiturage. Mais en tout ça pour dire que ça, c'est un leurre, parce qu'après, oui, le reste du bouquin, on passe direct,
oui,
à, la,
bien sûr,
à la troisième personne.
Mais vous gardez quand même ce style, par moment, à nous livrer, ponctuer dans les deux livres, d'autres moments plus doux. En fait, c'est une question de rythme. Et c'est très chouette à vivre ça autant que lecteur ou lectrice. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais c'est intéressant parce que voilà, ce n'est pas quelque chose de monocorde, c'est quelque chose qui nous permet effectivement de nous trouver dans des situations dans lesquelles on pourrait s'affaisser dans une lecture et puis hop, ça repart pour des plus belles parce que ça s'enchaîne. C'est très agréable. Je vais quand même poser une question à Claude, puis en effet de ricocher, parce que tout à l'heure, nous étions en train de parler de la vie sexuelle trépidante de son personnage. Hein. Seulement, voilà, Jeff, il y raconte aussi pas mal dans ce qu'il raconte. Il y raconte lui, il y raconte les gens qu'il rencontre, il y raconte les couples. Il y a pas mal de couples, finalement, qu'il va croiser durant cette énorme balade qu'il fait.
Ce périple.
Ouais, ce périple. Et en fait, il dévoile pas mal l'intimité des couples. C'est aussi une façon de se dévoiler, de s'imaginer des couples aussi différents.
Ouais, bah en fait, c'est ce qui est enfin, le fait d'aborder les personnages à travers la sexualité, ça, c'est vrai que ça dévoile beaucoup de la personnalité des personnages. Donc en fait, je crois que c'est, mais ça je l'ai toujours fait dans les romans que j'ai fait. En général, j'ai beaucoup parlé de sexualité de personnages, mais des fois ça pouvait être des personnages qui n'avaient pas de sexualité, ce qui est une forme de sexualité en soi. C'est très ouvert en réalité. Et d'ailleurs, Jeff dans le livre, et ben depuis le drame que je ne dévoilerai pas, c'est vrai que sa sexualité semble relativement un peu en berne. Sauf peut-être avec sa compagne, mais alors qu'auparavant c'était un dragueur invétéré. Enfin, c'est ce qui semble ressortir de ce qu'il raconte de son passé, où il se décrit comme ancien connard et où il est considéré comme par la moitié de la population comme aussi vraiment un connard. Donc il y a eu tout un travail sur lui-même qui ressort du drame qu'il a vécu et qu'on découvre peu à peu. Et là on se dit, ah oui, effectivement, ça c'est un vrai choc, parce qu'en fait c'est un drame sans rien dévoiler, dont il est indirectement responsable, bien qu'il n'était pas là au moment des faits. Mais il y a trois éléments scénaristiques qui permettent de dire que, ben, par un concours de circonstances, effectivement, il est plus ou moins responsable de ce qui est advenu et dont nous tairons les éléments.
Voilà, on démarre avec un Jeff qui est plein d'assurance, et puis petit à petit dans le roman, cette assurance, elle va s'étioler pour donner l'essence à quelque chose d'assez lumineux, finalement, sur sa grande humanité et effectivement ce drame qui est vraiment un drame. Là, c'est tout votre génie de polar qui ressort sur ce moment-là, alors que le livre n'est pas un polar. Et qui va effectivement nous laisser un petit peu quoi en se disant ah ouais quand même donc bon ok quoi c'est bon comme ça c'est assez clair ok
bah non c'est pas clair là
ça va ça doit être très clair et justement alors je continue sur cette volée de la sexualité mais pas que la situation amoureuse on vient d'entendre donc votre personnage Elliot est homosexuel il y a aussi Lulu qui à un moment donné là dans la soixantaine elle aussi peut-être pour combler la solitude. On a parlé d'appli tout à l'heure, de rencontres, etc. Donc, c'était une façon aussi importante de personnaliser, alors que vos personnages ne sont pas psychologiquement trop travaillés, mais de personnaliser et de donner une humanité, une part de qu'est-ce que c'est ces relations à l'autre, en passant par la sexualité.
Bah ouais, en tout cas, c'était encore une fois, c'était une question que je me posais. Qu'est-ce que c'est d'être homosexuel et de devoir rencontrer des mecs à Cholet, tout simplement. Ça, c'est écrire une saga là-dessus et déjà je me et encore plus quand il y a un confinement et qu'est-ce que c'est d'être veuve et d'approcher les 60 ans et de devoir rencontrer quelqu'un avec qui partager sa vie comme on fait dans une ville comme Cholet concrètement avec les applis ou voilà surtout dans des milieux où au travail finalement on croise toujours les mêmes personnes et puis c'est des gens qu'on fait que croiser avec qui on a peu l'occasion de sympathiser donc je me suis posé ces questions j'ai essayé d'y répondre j'ai fait des petites expériences et voilà et en effet ça passe par les applis ça passe par les applis de rencontre qui vous proposent les célibataires près de chez vous via une localisation c'est vrai que quand on est localisé à Cholet que autour de chez nous il y a une autoroute des parkings on croise certaines personnes et c'est ça que j'ai voulu explorer. Et puis même, ce qui m'intéressait aussi au-delà de ça, c'était, puisqu'on parle des relations, c'était l'amitié intergénérationnelle entre Elliot et Lulu. Parce que Lulu, elle a un fils qui est parti à Paris, Elliot voit peu ses parents, et du coup, évidemment, il y a un lien de parenté, d'amitié qui se crée entre ces deux-là, et chacun s'apprend. En effet, lui, il lui installe une appli de rencontre, il essaie de l'aider à l'utiliser, et puis il lui apprend aussi... on parlait tout à l'heure à rentrer en militantisme. Alors, en même temps, elle lui remet aussi, le remet un peu à sa place et lui le pose. Il dit ok, tu parles beaucoup de militantisme, mais t'as pas foutu grand chose dans ta vie, donc on va peut-être faire. Et donc il se donne beaucoup et c'est cette relation là que je voulais mettre au cœur du livre.
Ouais, il y a une relation aussi un peu maternelle parce que Louis, il a le frigo vide, enfin rempli de pas mal de bière puisqu'il est en train de procrastiner et en même temps bah, il aime bien boire sa petite mousse voire plusieurs mousses dans la soirée et elle arrive avec des courses quoi. Faut pas oublier quand même qu'elle travaille au Carrefour.
Ouais, elle lui fait à manger, elle lui fait le ménage, il y a un peu de ça, il s'entraide comme ça et puis je parlais de procrastiner, moi c'était aussi un des défis que je me suis lancé, c'est aussi même si c'est un roman qui parle avant tout du monde du travail et de qu'est-ce que c'est le travail, ça parle aussi de qu'est-ce qu'on fait quand on travaille plus le soir, qu'est-ce qu'on fait pareil quand on est veuve et qu'on vit toute seule dans un HLM à Cholet. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on regarde la télé, par exemple. Et
combien
du coup,
même, ce n'est pas n'importe quel travail, parce que c'est un travail un peu de sidération, ouais. On va dire.
Ça, c'est le cœur, bien sûr, son travail de caissière et les gens qui travaillent dans la grille commerciale de Carrefour en général. Et je les suis après chez eux, en effet, Covid ou pas, et j'essaie de voir. Et du coup, je me donne un défi. Est-ce que j'arrive à écrire 10 pages de quelqu'un qui regarde la télé, quoi ? Et j'essaie de ne pas en parler de psychologie des personnages. Tu parlais de psychologie. J'aime pas trop ça, j'aime pas trop les arcs narratifs et je voulais pas que au début du roman ils aient cette problématique qu'ils doivent résoudre avant la fin et le 31 décembre pile à la fin de l'année ils ont pu faire tout ce qu'ils voulaient et ils ont appris plein de leçons et ils repartent vers la nouvelle année. Non, je pouvais pas faire ça donc plutôt aller chercher justement dans les moments où il se passe rien et où on change pas quoi.
Alors, juste avant de passer la main à Claude pour parler de ses histoires de travail, tout à l'heure, on a parlé, ça fait deux fois, de la temporalité du livre de décembre à décembre, avec des dates très précises, mais ces dates ne sont pas choisies au hasard.
Non, j'ai pris des dates qui sont un peu événementielles, et qui, en tout cas, il y a longtemps, C'est pour ça d'ailleurs que je commence les chapitres par des dictons d'almanach, des dictons tout faits, qui sont des magnifiques petits haïkus, des magnifiques petits poèmes du genre, j'en ai un, je peux prendre au hasard, je ne sais pas moi, je ne les ai pas appris par cœur, mais « Février remplit les fossés, mars les vide », par exemple. Et ça, ça existe dans les éphémérides, et c'était des éphémérides qui marquaient notamment à Cholet la vie rurale et la vie catholique, parce que Cholet et les Mauges, de manière générale, sont des terres rurales et catho à l'origine. Et là, mais ce sont des marqueurs de temps, des fêtes qui sont aujourd'hui récupérées par le capitalisme et par la grande distribution notamment. Ce qui fait que, bon, février, c'est la chandeleur, il faut vendre des crêpes. Le solstice d'été, c'est le moment où on va brader les barbecues, etc. Noël, la Saint-Sylvestre, etc. C'est toujours des moments, ça me semblait des marqueurs de temps intéressants pour structurer le bouquin et puis voir... voilà. Et puis des fois, j'ai des dates, j'ai un peu triché, je me suis dit, faut qu'il se passe un truc tel jour. Mais je me suis intéressé, j'ai lu beaucoup d'éphémérides, beaucoup de dictons, je vous ai sélectionné les meilleurs. Et parfois, je les remplace par une autre forme de poésie qui sont les citations d'Emmanuel Macron.
Voilà, c'est ça, très bien choisi aussi, effectivement. Ouais, on va parler.
Sur la fête du travail, notamment, il a une très belle citation sur le 1er mai, Emmanuel Macron. Voilà.
Oui. Allez-y.
L'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs, n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant, car c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la nation tient. Voilà, c'est du Georges Marchais, c'est du Emmanuel Macron, c'est incroyable. Voilà.
De toute façon, si un historien de l'avenir voulait savoir quelle était la vie dans une galerie commerciale au temps du Covid, il étudie le livre d'Antoine et puis c'est bon, il a tout. Il a tout entre les rapports sociaux, les rapports de classe, enfin vraiment la vie est vraiment et la justesse en plein, parce qu'en fait vu que c'est extrêmement documenté,
l'amitié,
il y a vraiment tout pour un. Non, c'est ça peut presque être un élément historique pour un, je sais pas. Un historien du 22e siècle.
Ah, vous avez entendu, ils se sont échangés les livres, ils se sont lus mutuellement l'un et l'autre. Donc tout à l'heure, on va entendre davantage aussi de ce qu'ils ont trouvé de la lecture d'un ou l'autre. Mais je reviens, je repêche le truc pour parler de travail avec toi, parce que finalement, Jeff, lui, il est musicien. Et là, dans ce périple, on va croiser pas mal de gens, de la nuit, de la musique, qui jouent au poker. Il y a un côté un peu testostérone avec des belles bagnoles, de motos, mais les nanas aussi, elles ont carrément des personnalités assez fortes. C'est vrai, quoi.
Complètement, mais en fait, il y a des belles bagnoles. Il y a la Corvette Stingray, c'est une voiture américaine que je ne connaissais pas. D'ailleurs, j'ai fait des fouilles pour savoir qu'est-ce que je peux lui donner. Parce que Jeff, avant d'être le mec bien qu'il est, avant, c'était vraiment un petit Mickey, quoi, un ancien connard. Effectivement, il avait sa Corvette Stingray. Donc c'est vrai que les personnages sont assez hauts en couleur.
Assez romanesque, ouais.
Assez romanesque, ouais.
Mais en fait, la discipline, les disciplines artistiques que tu proposes, il y a aussi des circassiens, etc. C'est une vraie forme d'évoluer aussi, de montrer ces personnages par le prisme de ce que c'est leur travail, leur vie, comme il s'est dédié. Et là, on voit aussi que ça se tire pas mal entre musiciens. Là. Ça se tire les pattes. Hein.
Il y a deux groupes. Alors, il y a un groupe qui s'appelle... si j'avais formé un groupe de rock, je pense que je les aurais appelés soit l'un ou soit l'autre. Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle les Vieux Beaux et l'autre groupe qui s'appelle les Micropénis. Et là, je veux dire, les gens, ils retiennent. Quoi. Et donc, effectivement, il y a une espèce d'antagonisme, enfin, de rivalité historique entre les Vieux Beaux et les Micropénis. Et donc il y a un personnage effectivement des Vieux Beaux qui est extrêmement jaloux du chanteur des Micropénis qui lui a piqué sa nana. Enfin bref, c'est vraiment des clins d'œil assez rigolos je me suis bien éclaté. Alors parfois c'est vrai que je m'amuse avec la langue, c'est-à-dire avec le langage, donc avec les dénominations des personnages. Il y a par exemple une famille d'Allemands au nom imprononçable qui ont une addiction véritable pour la propreté, donc je les ai appelés Monsieur et Madame Ossédard. Et puis il y a un autre personnage qui est un Belge costaud avec une boucle d'oreille chauve qui vient habiter
Monsieur Propre,
et que je finis par appeler Monsieur Propre, enfin que les gens appellent Monsieur Propre, et puis il se crée une histoire d'amour entre Madame Ossédard et Monsieur Propre, donc ça crée tout un...
Tension.
C'est un peu une sorte de délire romanesque lié en fait au nom des personnages. Donc j'aime bien jouer avec les noms, en fait. Avec les...
Est-ce que c'est le moment de la lecture, là ?
Si vous voulez, oui.
La transition est moins bien, vous avez remarqué ?
Oui, c'est vrai.
Tout à l'heure, elle était...
Non, mais je ne sais pas... Je ne sais pas ce qu'il va lire, mais pour un peu qu'on part sur un moment romanesque où il y a effectivement...
On va sûrement rigoler, parce que moi j'ai beaucoup ri en lisant ton livre.
Oui, c'est vrai que c'est drôle.
En fait, on va dire un texte que j'ai lu hier, parce qu'en fait, je ne savais pas quel texte prendre, et je suis passé à l'émission « Fais-moi lire » de Nicolas Roberti. Et il m'a dit, tiens, lisez ce passage, parce qu'en fait, ce n'est pas la peine de trop le contextualiser. Bon, je parle de l'oncle Eddie. En fait, Jeff a un oncle qui s'appelle Eddie, qui a une de... qui est vraiment un personnage important du roman. Alors, en fouillant un peu, il y a néanmoins des points communs entre mon oncle Eddie et moi. Par exemple, malgré une génération d'écart, on nous a collés à tous les deux, et Dieu sait que ça s'entend, des prénoms anglo-saxons à la con. Cette marque de fabrique américaine nous vient de l'influence de mes boomers de grands-parents, clochards célestes, s'étant tardivement accrochés à la queue de comète du rêve kerouacien, pour échouer ici à l'aube des années 70. En fait, il n'était pas seul. Il faisait partie d'une communauté venue du Nord et qui, n'ayant jamais su choisir entre Goa et San Francisco, s'était posé, compromis folklorique lié à l'héritage de ma grand-maman, sur ce coin isolé de landes bretonnes. Pour être précis, ils avaient tous pris leur quartier autour d'une vieille fabrique de biscuits désaffectés, les délices du chaton Perle, qu'ils avaient impeccablement retapé et viabilisé. Puis, le temps passant et l'époque virant au néolibéralisme sauvage, chacun avait regagné ses pénates hyperboréens, ne laissant sur site que l'irréductible couple grand-parental. Le beau rêve collectif avait pris fin, se muant en petite entreprise familiale sous la forme d'un camping privé. Mais papy-mamie, plein d'entre gens et se découvrant des compétences de négociateur émérite, avait obtenu d'abord la concession, puis la propriété du terrain communal s'étendant de l'ancienne fabrique jusqu'à la plage toute proche. Cette entrée fracassante dans l'économie capitalo-touristique n'avait cependant pas tellement changé leur vision paradigmatique du monde, et c'est sur ces rivages qu'au fil des ans était née, puis avait grandi à la va comme je te pousse, ma mère, ma tante Carole, puis plus tard, mon oncle Eddie. Vu que j'étais toujours dans les limbes à l'époque, et que certains acteurs de l'épopée ne sont plus là aujourd'hui pour en établir la chronique détaillée, j'en sais en réalité très peu. Je n'ai eu que quelques échos de la jeunesse échevelée de ma mère, d'où ressort une addiction précoce pour les produits stupéfiants, avec un goût prononcé pour les expériences originales. C'est ce qui a tragiquement sonné la fin de partie. À peine un an après ma venue au monde, je la fais courte et sans pathos, elle a été victime d'une fatale overdose, et 3 ans plus tard, mes grands-parents ont eux aussi, peut-être par remords ou solidarité, disparu sur une ligne droite se gauchissant par la grâce d'un nuage de ganja, l'acte manqué prenant la forme d'un accident de voiture contre un platane, n'ayant rien voulu céder de son immobilité séculaire.
Alors, les applaudissements.
Merci. Merci.
Tu parles de Kerouac, des clochards célestes. Moi, j'ai retrouvé évidemment un peu de ça, parce que je disais évidemment beaucoup ça quand j'étais ado, et j'ai retrouvé ça dans ta plume, puis ça me fait penser à John Fante aussi. John Fante, c'est le père, hein, je ne confonds pas. Ouais. Et dans l'écriture, puis dans les personnages surtout. Je voulais le dire pour ceux qui aiment John Fante, Kerouac ou.
Justement, puisque nous sommes dans les confidences, vous avez lu les livres de l'autre, c'est peut-être le moment. On va se faire comme ça, on va s'imaginer quelque chose. Antoine est au Balto. Tu as lu le livre d'Antoine, tu arrives et tu lui dis des trucs, vous êtes en train de boire une petite mousse. Alors, comment tu as trouvé son livre ?
Tu peux venir à la deuxième chaussette, rue Dinan, bar où je travaille, et où je vous invite à venir boire un verre.
Ça, c'était le moment pub, hein, parce qu'il y a plein de pubs dans le livre d'Antoine, donc il profite pour continuer. Alors.
En fait, je lui dirais ce que j'ai un peu dit tout à l'heure. C'est-à-dire j'ai parlé, parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux quand j'ai commencé le livre, c'est le rapport qu'il y avait, la parenté qu'il y avait avec l'univers d'Étienne Davodeau.
Donc, qui est... Oui, c'est vrai.
Donc, au lieu d'intervenir ici, tu aurais pu intervenir dans l'auditorium, là, où il est en train d'intervenir. Donc, Parce que là, il y a eu des choses à dire dans l'échange. Bon, entre nous, il y a aussi des choses à dire.
Ah oui, bien sûr. Non, mais ouais, mais en même temps, ah bah oui, Davodeau, évidemment, j'ai lu et je dois beaucoup sur, en tout cas, la sociologie de la région. Puis pas que ça aussi, comment il fait rentrer du travail très documenté dans de la fiction très, très émouvante. Enfin, moi, c'est pas que du documentaire, Davodeau, c'est surtout un grand talent d'écriture. Et donc, je te dirais, bah, déjà tu bois quoi et ensuite je te dirais en effet, Davodeau et Bégodeau encore une fois je leur dis
c'est vrai que c'était déjà dit tout à l'heure
on en a parlé, ouais. J'ai parlé de mon dry January
parce que j'ai oui. Et je te dirais, c'est bien, il faut parfois faire des pauses.
Oh, je l'ai fait cette année, je ne sais pas pourquoi, parce que je l'ai fait il y a 3 ans, puis j'ai remis le couvert. Donc
Moi, je te dirais, tiens, ça serait intéressant de voir Jeff, ton personnage, faire Dry January.
Ça
pourrait amener à des situations rocambolesques, je pense. Suivre tout un mois alors qu'il essaie de jamais boire un coup, alors qu'il, sans arrêt, il croise des gens qui l'invitent et tout ça, et il fait une virée comme ça, il fuit sans arrêt l'alcool. Et puis peut-être qu'il craque avant, ou peut-être qu'il arrête à jamais de boire, on ne sait pas, ça pourrait être. Jeff ou un autre personnage, tiens. Une idée de roman.
Je
t'offre.
J'ai une piste.
Une bonne piste. Ok, donc peut-être un retour quand même sur quelque chose en plus. Non, ça reste là, sur le Jeff et son Dry January. Oui. Parce que là, il vient de t'inviter sur le bateau de Jeff. Pour que tu dises qu'est-ce que tu as trouvé dans son livre.
Qu'est-ce que je ferais si je voyais Jeff ou si je voyais
Claude. Voyais Claude.
Je sais pas. Je sais pas. Tu me prends au dépourvu. Je suis pas trop pied marin.
Moi non plus.
D'accord, c'était pas une exigence folle tout ça. Est-ce qu'on peut parler plutôt de vos ressources à vous? Parce que là, Antoine, en fait, c'est un deuxième livre. Le premier, c'était... Troisième, pardon.
Mais deuxième, c'est pas vendu, donc ça compte pas.
Donc, il y a eu, Rome Sweet Rome, écrit avec Alizé Nitter.
Oui.
Ça, c'était le premier?
Le premier, oui, Rome Sweet Rome. Le deuxième, c'est Stéréo.
Ah oui, Stéréo,
qui est sorti aux éditions
Équateur
il y a 3 ans.
Bien sûr,
Et celui-ci.
Je notais Stéréo également. Et là, vous êtes reparti sur ce livre. Alors, est-ce que les expériences précédentes, on imagine bien que ça vous a beaucoup alimenté, mais est-ce qu'à chaque départ d'un livre, pour vous, c'est tout doit être différent, ou alors vous continuez de vous alimenter de cet univers qui est le vôtre? Comment vous vivez votre écriture?
J'essaie que... Alors, il y a toujours, pour ceux qui connaissent un peu comment ça fonctionne, le milieu de l'édition, il y a toujours un décalage entre le moment de la sortie du livre, l'écriture... Plexiglas, j'ai fini d'écrire en 2021, il est sorti en 2023. Je sortirai en 2025 un autre roman que j'ai fini d'écrire en 2022, etc. Donc il y a du temps qui passe. Entre temps, on lit, donc on est influencé par ce qu'on lit. J'ai lu récemment, moi je suis à fond sur Echnoz. Jean Echnoz, c'est mon auteur français contemporain favori. Et j'ai tout relu, j'ai relu tout ce que je n'avais pas lu aussi de lui. Et ça m'a beaucoup influencé pour le bouquin qui sortira l'année prochaine. Donc c'est aussi, c'est un peu le cerveau éponge. Là il y avait Davodeau Bégodeau, là c'est plus Echnoz pour le prochain, même si le prochain il parle de Wallaby, c'est les petits kangourous, voilà. Dès que j'ai trouvé une contrainte formelle, là je peux partir, c'est ça qui m'intéresse, une contrainte formelle quelle qu'elle soit, un défi que je me mets à relever, et puis évidemment pour tenir la contrainte formelle et l'exercice de style, il faut que j'ai un fond qui m'intéresse un minimum. Et puis après je pense que si on prendra un jour, on prendra toute ma bibliographie et on dira il est un peu marxiste, il aime bien parler des classes, des rapports de classe. Je pense que c'est un peu le truc qui se dégage des 3 premiers. Après, puis c'est à peu près tout. Après, j'espère qu'ils vont tous être différents. J'en ai un autre que je suis en train de faire qui est plus proche de Plexiglas. Enfin voilà, mais toujours un petit peu de politique, toujours un petit peu de rapports sociaux, ouais.
Et est-ce qu'il y a, en parlant de contraintes comme ça, les contraintes formelles pour l'écriture, mais il y a aussi de rituels, des choses précises pour se mettre à écrire?
Oui, je suis procrastinateur, puis j'ai un travail, surtout j'ai un travail à temps plein, donc il me faut une structure, des horaires que je m'impose. Moi, ma technique, c'est j'écris de 14h à 17h, si je peux, et j'écris, j'avance, peu importe si c'est nul, c'est souvent nul, mais j'avance quand même. Par rapport à l'objectif que je me suis fixé, à mes contraintes, à mes fameuses contraintes. Par contre, le vrai travail, c'est le lendemain matin, entre 10h et midi, je relis ce que j'ai fait la veille, et là, je, Là, je fais du montage, j'enlève. On parlait des points et des virgules tout à l'heure. Je ne sais pas si tu es d'accord, Claude, mais pour moi, le travail qu'on fait, mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse le plus dans le travail, c'est où je mets, où on place les points et les virgules. Moi, c'est ça qui. Enfin, comment on fabrique une phrase, quoi. Et ça, c'est le travail du lendemain matin que j'aime beaucoup. Autant l'après-midi, avancer dans l'écriture, ça peut être laborieux et décourageant, mais relire après et enlever ce qui n'est pas bien, placer des virgules, tout ça, ça, j'aime bien. Et un travail qu'on peut refaire, évidemment, quand tout est fini, qu'on a la matière qu'on peut tailler et tout ça. Et voilà, c'est ça mes rituels. J'ai commencé à m'organiser comme ça, parce que sinon, je foutais rien.
Et quand l'éditeur ou l'éditrice rentre là-dedans, quelle place ?
Ça, c'est encore mieux, parce que là, on a quelqu'un qui nous aide à y voir encore plus clair et à faire des phrases encore meilleures. Et en plus, là, j'ai de la chance, au fur et à mesure des romans, j'ai eu trois éditeurs différents. Là, je compte rester chez Asphalt, parce qu'on a super bien bossé et ça a bien marché avec eux, avec elles. Et je sais que je leur fais entièrement confiance pour me dire ça c'est bien, ça c'est nul, et puis comment on pourrait le rendre mieux et qu'est-ce qui serait le plus intéressant. Mon éditrice, c'est une collègue de montage, quoi. Voilà. C'est comme ça que je le vois.
Pourquoi écrire ?
Je sais pas, Claude. T'as pas entendu là ?
Oh non, alors là.
J'allais lui poser la même question.
Ah, yeah.
Tu veux que je commence ?
C'est lâche.
Moi j'aime bien ça. Je trouve ça. J'aime bien ça, écrire. J'ai envie de raconter ces histoires, et puis quand j'étais plus jeune, je voulais écrire des scénarios, je voulais faire du cinéma, je faisais beaucoup de vidéos, tout ça, et ça demandait de travailler avec d'autres gens, ça demandait de l'argent, alors que écrire, je peux le faire tout seul et sans argent. Donc c'est pour ça que je me suis tourné vers ça, mais aussi parce que je lisais beaucoup. Et puis plus je lis, plus j'ai envie d'écrire, parce que je me dis ah putain, ça c'est bien, comment il a fait, est-ce que je peux faire aussi bien ou mieux. Alors même si c'est pas le cas, j'essaie en tout cas, et ça c'est chouette. Tant que je lirai des bouquins qui me plaisent, je continuerai à écrire. Et puis j'ai la chance d'avoir un travail alimentaire à côté. J'ai la chance d'avoir été publié assez jeune, donc c'est déjà la première étape. Je me serais peut-être découragé sinon. Et donc je vais continuer. J'aimerais bien sortir un bouquin tous les deux ans, et tout en continuant à bosser dans un bar ou ailleurs. Et ça, c'est très bien. Ça me va très bien. Puis venir à Jardin d'hiver de temps en temps. Et voilà, quoi.
Eh bien, on va continuer avec toi, Claude. Donc, Rennes, ici Rennes, avec le collectif Calibre 35, sorti aux éditions critiques en 2013. Avant cela...
Excuse-moi, Claude n'a pas répondu à la question, pourquoi écrire,
mais
cela dit, je peux y répondre.
Tu vas y venir, ok, pardon.
Non, mais je dis juste les deux, trois livres. Déjà que j'ai raté un tout à l'heure. Donc, il y a L'Esthésie de Tout-Brest en 2007. Ce ne sont probablement pas les seuls. Il y a d'autres participations avec des nouvelles, notamment.
Ça dépend de quoi tu parles, parce qu'en fait.
Ce que tu as écrit.
Ce que j'ai écrit tout seul, c'est-à-dire que. Bon, déjà, je peux répondre à la question. Ouais, voilà, pourquoi écrire ? Pourquoi écrire ? En fait, quand vous écrivez. Bon, alors, ça, c'est une réponse que je fais souvent. Quand vous écrivez, c'est que vous êtes le boss. Parce qu'en fait, c'est un univers qui. Voilà. Déjà, vous êtes responsable quand vous êtes auteur, contrairement, effectivement, quand on est scénariste ou. Où effectivement tout peut être revu. Si c'est pas bon, c'est vous. Si c'est bon, c'est vous. Mais et en même temps, vous avez le boss en sens que c'est un univers. Donc c'est peut-être il y a peut-être une dimension infantile en sens que c'est un peu comme quand on retombe en enfance. C'est le bébé qui a l'impression que l'univers qu'il vit vient de lui. Parce qu'il se rend pas compte que le monde c'est autre chose que lui seul. Donc il y a peut-être une dimension un peu narcissique ou égocentrique. Mais toujours est-il que donc c'est un univers qu'on crée où on a toute la responsabilité. Et c'est vrai qu'il y a une jouissance de l'écriture qui est assez énorme. C'est le moment le plus jouissif de l'écriture, justement, quand on travaille. Alors, tu parlais des virgules, des points. Alors, j'ai entendu dire qu'il y avait un auteur qui plaçait d'abord ses points et ses virgules. Et après, il écrivait son livre en fonction des positions de la ponctuation. Donc, tu vois, c'est une contrainte qui est assez intéressante. Hein,
Alors vous voyez bien les deux auteurs, c'est que nous relie là. Les deux auteurs, ils ont beaucoup d'humour et vraiment une sensibilité très originale, très très lumineuse. Donc franchement, je vous conseille la lecture des deux livres parce que vous allez passer un super moment, tout comme nous sommes en train de passer, un peu bordélique, j'avoue, mais nous sommes en train de passer ensemble ici avec eux. Et donc, voilà, de livre en livre, qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que c'est une continuité de travail ? Là, s'il y a eu des polars, nous, on est sortis de polars avec Desperados.
Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, j'ai commencé ce truc par deux polars. J'en ai un autre que j'écris, mais qui n'a pas été édité, parce que c'est pas facile de trouver des éditeurs. Parfois, il y a trop ceci, pas assez cela. Parfois, ils vous le refusent pour des raisons pour lesquelles vous l'avez écrit. Donc, vous dites, bah, c'est un peu dommage parce que c'est vraiment la raison pour laquelle je l'ai fait. Et c'est pour ça qu'ils vous disent non. C'est, donc, mais si, donc, j'écris des polars, j'écris aussi des livres pour enfants, des contes pour enfants, des histoires de chevaliers, de princesses, de pirates. Et donc, quand mes enfants étaient jeunes, justement, j'étais très motivé par le fait d'écrire pour les enfants, parce qu'en fait, c'est à force de leur raconter des histoires, j'ai dit, bah, tiens, je vais les mettre sur papier. Et puis, donc et d'ailleurs, j'avais dans mes personnages de chevaliers ou de pirates, tous mes héros s'appelaient Malo, qui est le nom de mon fils. Donc, c'était pour. Voilà, donc ça. C'était un plaisir. Non, je le fais plus. Alors, je suis moins porté à écrire pour les enfants parce que mes enfants sont grands. Donc, en fait, je m'adapte à leur âge pour écrire. Voilà.
Oui, c'est intéressant d'ailleurs de se demander quand on écrit, est-ce qu'on se pose la question pour qui on écrit ?
Vas-y, j'écris pour moi.
Ah non, mais je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a un lecteur idéal qu'on projette. Et ce lecteur, ce qu'il y a de bien, c'est que en fait. Vu que c'est nous, plus ou moins, on sait qu'il va capter le message tel qu'on a voulu qu'on a voulu l'émettre à travers l'écriture. Bon, il est évident que les gens qui nous lisent après ont des expériences différentes de la vie. C'est-à-dire qu'on envoie un message, mais toute personne, selon ses expériences de vécu, va percevoir des choses dans notre livre que nous, on n'a pas perçues. Ils vont favoriser certains éléments.
C'est génial, ça. Et comment vous percevez, justement, c'est génial ou pas, ça dépend. Enfin, ça peut déstabiliser aussi.
Non, c'est intéressant. J'ai pu, depuis que le bouquin est sorti en août, j'ai pu faire une petite tournée de librairie un peu partout en France et j'ai rencontré. Alors, ça parle évidemment. Je me retrouve, pas à chaque fois, mais parfois, je me retrouve avec des gens qui travaillent en galerie commerciale ou des caissiers, des caissières. Et c'est super intéressant d'avoir leur point de vue. Je cherche pas leur approbation, mais je suis intéressant de savoir si c'est juste, si j'ai pas dit trop de conneries. Et parfois, j'ai des retours vraiment. Je trouve ça très émouvant. Parfois, j'étais en librairie à Saint-Malo où il y a eu des conflits. Un monsieur qui aimait pas du tout, qui était macroniste et on a eu un long débat. Enfin, c'est intéressant. Et après moi, quand j'écris, je pense, par exemple, j'écris Plexiglas, je me dis, est-ce que ça plaira à Bégodeau ou Davodo, tiens, pardon. Là, j'écris le dernier. Est-ce que ça plaira à Jean Echeneau s'il le lit? Je m'en fous, je sais pas s'ils vont les lire, mais c'est à ça que je pense. Je me mets des modèles, des mentors imaginaires et je le fais pour ça. Après, évidemment, le retour que j'ai et qui me touche le plus, en effet, c'est quand c'est des gens. J'étais à Cholet aussi. Très mal passé à Cholet, ma rencontre en librairie.
Ah ouais.
Vraiment. Bah non, mais c'était
quoi, sur les lieux
mais
du.
Bah ouais, j'étais. Je veux dire, en plus j'ai toute ma famille là-bas. J'étais content d'y aller dans cette librairie. Mais le libraire avait pas aimé le bouquin. Ah. Avait quand même organisé l'événement parce qu'il n'y a pas 10 000 bouquins qui parlent de Cholet. Et il y avait une tension et c'était. J'ai bien rigolé. C'était marrant. Et en même temps, j'ai aussi rencontré des gens qui travaillent au Carrefour. Mais j'en avais déjà rencontré avant et j'en connais dans ma famille. Et j'avais fait mon travail de recherche, mais c'était marrant. Et là, évidemment, on parle plus trop littérature. Moi, je disais que c'était le fond la forme qui m'intéressait. Là, on parle que du fond. Mais c'est intéressant. Moi, j'apprends des choses j'ai appris plein de choses sur Cholet, sur Carrefour aussi. Voilà.
Carrefour et plein d'enseignes qui viennent en fait habiller un lieu, donner véritablement un décor d'un lieu. Qui par moments dans votre livre on va trouver chaleureux parce que les personnages vivent des choses entre eux, mais souvent c'est pas une esthétique folle quoi, on n'est pas.
Et en même temps c'est pas pour rien, je pense que tous les deux on a choisi aussi de placer notre action dans ces zones, sur ces parkings, dans ces boutiques, que ça soit je passe un chapitre, enfin deux paragraphes sur la nose. Vous connaissez Nose, il y en a un rue de Saint-Malo, évidemment. Là, c'est un gigantesque Nose. Et mon personnage tue une heure en sortant de l'EHPAD à Nose. Et ça m'intéresse parce que ce n'est pas des lieux que je méprise, parce que c'est des lieux que moi, j'y ai passé énormément de temps avec ma mère, tout seul. On passe beaucoup de temps tous, de toute façon, par nécessité, à un moment, dans des galeries commerciales ou dans des grandes surfaces. Et donc, c'est des lieux qui existent. Ça serait dommage de ne pas les. Ils ont leur place en littérature, ils ont leur place au cinéma, ils ont leur place partout. Ils sont. Et moi, je ne cherche pas à les magnifier, j'essaie juste déjà de les raconter, de les décrire. Et comme toi tu fais, ça rajoute une vraie couleur au bouquin que ça se passe là, plutôt que si tu avais passé ça dans les rues de Paris, bon, on a que les rues de New York, on a combien de bouquins qui se passent dans les rues de Paris, les rues de New York, on peut évidemment les raconter différemment, mais je trouve ça plus intéressant d'aller dans ces endroits, et c'est là que, en tout cas, moi je suis en quête de réel, de raconter le réel, bah, est-ce qu'il y a, pour moi le réel, c'est, ouais, c'est passer une après-midi à Nose à Cholet, quoi.
Est-ce qu'il y a aussi quelque chose qui nous relie, enfin qui vous relie tous les deux, c'est le fait de nous laisser découvrir des textes dans lesquels vous nous placez gentiment comme ça, dans une posture dans laquelle vous nous invitez à ne pas porter de jugement.
C'est compliqué ça.
Ben, si, parce que la façon comme vous racontez un et l'autre, du moins dans ces livres-là, on avance dans les histoires, on peut avoir des pensées, des choses qui nous traversent, on peut avoir des familiarités ou des émotions ou quoi, mais d'une certaine façon, on voit aussi que vous avez des intentions de non-jugement qui sont très fortes dans vos textes.
Bah, c'est vrai qu'il est souvent, s'il y a un bouquin, des fois.
On a parlé de phénoménologie tout à l'heure.
Oui, mais si un auteur met trop de lui-même, enfin trop de lui-même, trop de son opinion personnelle dans un bouquin, c'est vrai que ça, et qu'on le voit vraiment de façon
tranché,
ça peut être on perd le romanesque, donc il peut être important effectivement de le faire. Alors moi je le fais parce que je passe à travers le personnage, donc en fait il y a une espèce de filtre qui fait, mais dans Desperado, vu que mon personnage s'adresse également beaucoup au lecteur, en fait, parce qu'en fait il y a un sentiment de connivence avec le lecteur, il lui parle,
il lui raconte,
il le prend à partie, donc c'est un tout, en fait, qui
Et dans ce que tu étais en train de dire à l'instant, il y a de ça aussi, hein, de cet effet de non-jugement qui, voilà, c'est peut-être.
Ouais, une posture. C'est pas des. J'ai pas de considération. Moi, j'ai des considérations esthétiques quand j'écris, pas du tout morales. Évidemment, ça, j'ai tenu, par exemple, comme je fais une galerie de personnages, à aussi parler, voilà, la caissière choletaise raciste qui habite à côté d'une mosquée qui vote RN. J'ai voulu parler du manager petit bourgeois, ultra-libéral qui est propulsé là-dedans et qui je tourne un peu au ridicule, mais tout en ayant de l'affection parce que c'est un personnage. Et faire ma petite comédie humaine, des fois un peu caricaturale, mais pas tant. Et après, si les lecteurs en pensent évidemment ce qu'ils veulent, s'attachent ou non à des personnages, ça, moi, ça ne m'intéresse pas de faire des personnages attachants. Toi non plus, je crois que ce qui t'intéresse, c'est de faire un personnage qui existe, qui te semble juste, qui est juste avec lui-même. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Jeff, peu importe, ça ne vous empêche pas de trouver intéressant de le suivre et de dire c'est un connard ou pas, ça c'est...
Ouais, mais Jeff, justement, c'est un personnage que j'aimais bien. C'est ça que j'étais très content de le suivre à travers. Oui. Non, je dis ça parce qu'actuellement, je suis en train d'écrire des nouvelles qui sont un peu connectées, en ce sens qui ça se passe un peu dans le même univers, qui serait d'ailleurs l'univers un peu l'univers d'Espéro 2 sur le rivage. C'est un bord de mer avec tous les infrastructures qu'il y a. Donc, mais par contre, les personnages sont assez déplaisants, si bien qu'en fait, ça suffit de vivre avec eux pendant une seule nouvelle. J'ai pas envie d'aller au-delà de.
Ah oui.
Donc c'est un peu d'où l'intérêt de faire des nouvelles. Enfin, pour eux, je fais des nouvelles, mais je ne peux pas faire un bouquin parce qu'ils sont trop déplaisants. Donc c'est assez étonnant, oui. Mais par contre, j'ai envie néanmoins d'explorer leur côté un peu borderline. Donc voilà, c'est un peu contradictoire. Mais...
Bah justement, il y a plusieurs auteurs, autrices qui disent on crée des personnages et après ils nous suivent, ils sont là. Parfois même, le livre est publié, il est entre les mains de lecteurs et lectrices et les personnages sont encore avec nous. Alors, quid de vos personnages? Où sont-ils en ce moment?
Je ne peux pas trop en dire parce que je suis en train d'écrire une sorte de roman qui reprend certains personnages de Plexiglas. Ce n'est pas une suite parce qu'il pourra se lire sans valeur le Plexiglas. Je ne fais pas de saga, mais en tout cas, il y en a un qui se retrouve saisonnier sur la côte vendéenne, en tout cas, c'est sûr. Et ça m'intéresse le monde de la côte vendéenne, le monde des saisons, que je connais bien aussi. Et ça sera pour beaucoup plus tard, ça sera dans trois romans, ça. Mais j'aimerais bien. Donc j'espère, en tout cas, je souhaite à Lulu d'être en retraite, parce que le bouquin commence, elle dit, on est en 2020, elle dit, si tout va bien, s'il n'y a pas de réforme d'ici là, je suis en retraite en 2023. Et donc, je lui souhaite d'être en retraite. Normalement, là, c'est point, mais quand même. Et je lui souhaite d'être en vie, surtout, et de ne pas avoir trop de problèmes de santé, parce que c'est ça qui l'attend probablement une fois la retraite arrivée, quoi.
C'est drôle parce qu'il en parle comme d'un personnage incarné. Il est sûr qu'elle existe. Il a une certitude absolue. Or, en fait, elle n'existe pas. Parce qu'en fait, elle n'existe pas.
Va savoir.
Est-ce qu'elle existe, ouais.
Non.
Parce qu'effectivement, moi, les personnages, de façon générale, je ne pouvais pas dire que j'ai pris comme modèle telle ou telle personne que je connais. Parce qu'en réalité, non, je ne fais jamais. Enfin, c'est jamais mon cas. Donc, je sais. C'est des personnages qui arrivent, mais qui n'ont pas. Qui sont, je pense à un mélange de plusieurs. Plusieurs personnes que j'ai croisées, parfois des archétypes, des fois ils ont des particularités. Mais il n'y a jamais.
Pareil.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas de personnage existant en soi.
Non. Non, il y a un peu, c'est pas du tout de l'autofiction et tout. Évidemment, je mets un peu de moi des fois dans Elliot, parce que voilà, j'ai mis un peu de ma mère dans Lulu, et en même temps, j'ai mis de plein d'autres gens, et de différentes expériences, de caissières, et aussi de femmes de 58 ans, et aussi de veuves, ou de mère, de voilà, c'est ça qui m'intéresse en effet. Il n'y a pas un personnage en particulier, sinon c'est pas, enfin, c'est de l'autofiction, et moi c'est pas un genre qui m'intéresse beaucoup.
Oui, et puis vous aviez dit tout à l'heure que vous travaillez dans un bar. Je sais pas si ça aussi c'est quelque chose, la rencontre avec les gens, peut-être pas dans ce contexte là mais vous devez être peut-être dans une observation du quotidien.
Bah, je travaille et c'est un bon boulot d'écrivain barman, c'est vrai. Enfin, c'est pas le premier à faire ça, parce que plutôt que d'être tout seul ou derrière un bureau, on est confronté sans arrêt à toute une galerie de personnages, en effet. Et on s'en inspire. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour les prénoms, parce qu'à une époque, j'écrivais beaucoup dans les bars et tout. Et il y a pas mal de personnages qui sont nommés. Je trouvais pas de prénom. Je dis, tiens, il y a machin qui est rentré. Voilà. Et après, ils disent, mais attends, c'est moi que t'as voulu écrire. Je fais, non, j'ai juste pris ton nom, ça a rien à voir avec toi.
Ouais.
Et voilà, mais c'est marrant. Et puis ça inspire évidemment, mais je ferai jamais un bouquin qui se passe dans un bar. Les trois premiers chapitres se passent dans un bar. Ah ouais, ok, on a compris, on est trop long, on y va. Allez, c'est fini, merci. On va payer les factures au champ libre.
Ah non, il me semble qu'on a encore 2 minutes. 2 minutes? Oui, c'est ça, parce que j'aimerais que tu conclues en nous disant si dans la fonction publique il y a pas mal d'accordéonistes, et c'était le point qui t'a. Enfin, d'observation.
De la fonction publique. Mais c'est en fait, la fonction publique, bon, déjà, je suis la fonction publique que depuis 2017. Donc, j'ai aussi un concours de façon improbable. Je l'ai réussi. Mais auparavant, j'ai fait pas mal de petits boulots et je me suis aussi beaucoup occupé de mes enfants. Je ne travaillais pas, j'étais père au foyer. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis à une époque d'écrire des livres, notamment des livres pour enfants, ou bien même les premiers polars. Donc, en fait, je ne m'inspire jamais de mon boulot.
L'entourage,
non. D'ailleurs, j'ai beaucoup de c'est vrai que je suis très attiré souvent les personnages sont dans les bars, c'est vrai. Ouais. qu'il y a ce monde là est un monde qui naturellement fait partie de mes livres, sans que je sois ni barman ni quoi que ce soit, mais je suis pas vraiment influencé par ce que je fais dans la vie en général.
Alors, on va se dire une chose, il y a le café de champ libre, ça tombe bien. Avant cela, nous avons quand même une séance de dédicace qui va démarrer maintenant, puisque maintenant, notre rencontre se termine. Et je vous remercie infiniment de votre présence. Les
merci.
Applaudissements pour nos deux invités.
Merci.
Merci à vous. Merci beaucoup pour cet échange. Je vous souhaite de continuer. Il y a encore dimanche demain. La soirée n'est pas terminée. Très bon festival à toutes et à tous. Et à la prochaine.